EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour tout le monde, eh bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis seule pour ce dernier épisode de la semaine. Et je vous rappelle nos rendez-vous de À table avec Annabelle, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors vous pouvez le noter dans vos agendas et puis on se retrouve chaque semaine à ces mêmes jours, lundi, mercredi, vendredi. Alors on termine aujourd'hui cette semaine en parlant de communication. J'aimerais aujourd'hui, pendant le temps qu'on a ensemble, vous aider à pouvoir saisir trois critères, trois choses très simples à mettre en place dans notre vie pour mieux communiquer. Alors certains disent la communication c'est vraiment un art, c'est compliqué et du coup on renonce à bien communiquer. Mais aujourd'hui j'aimerais commencer en vous rappelant l'importance de la communication parce que c'est quelque chose que Dieu nous a demandé, il nous a demandé de pouvoir communiquer et c'est comme ça aussi que lui-même est avec nous. Nous sommes dans une relation, on communique et Dieu s'efforce de communiquer avec nous d'une façon avec laquelle on va pouvoir le comprendre, on va pouvoir l'entendre, on va pouvoir l'écouter, on va pouvoir saisir ses paroles et c'est important pour nous dans cette relation que de pouvoir reconnaître la voix de Dieu puis aussi de pouvoir la comprendre. Et c'est pour ça que nous-mêmes, eh bien c'est important qu'on puisse aussi apprendre à mieux communiquer et puis à mettre des efforts sur notre communication, pas en se disant « Oh, c'est quelque chose de trop difficile, eh bien il faut me prendre comme je suis ». Non, ça fait partie de notre perfectionnement pour mieux aimer les autres, eh bien je vais apprendre à mieux communiquer. Alors comme je vous le disais, je vais vous partager trois critères très simples pour pouvoir améliorer notre communication. Une bonne communication, eh bien il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais une des choses, c'est que une bonne communication, ça va être de savoir que puis-je dire et puis comment est-ce que je vais le dire ? Quelle forme je vais donner à cette communication ? Et pour ça, eh bien, on va prendre quelques exemples dans la Bible, notamment avec Jésus. Et pour commencer, j'aimerais nous rappeler ce moment où Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, 12, alors qu'il a déjà passé beaucoup de temps avec ses disciples, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Les disciples ont vu Jésus faire des miracles, ils l'ont vu parler avec d'autres gens, interagir avec d'autres gens. Ils l'ont écouté, enseigné. Et là, Jésus leur dit cette chose, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Et puis ça, c'est quelque chose dont on doit se souvenir dans la communication. On peut avoir beaucoup de choses à dire, mais on doit prendre en compte la personne qui est en face de nous. Jésus a pris le soin de prendre en compte les personnes qui étaient en face de lui pour savoir quoi dire, pour savoir comment le dire pour que ce soit reçu le mieux possible. Et là, il leur dit, écoutez, moi j'ai encore plein de choses, je pourrais vous dire encore des choses, parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous auriez besoin de connaître. Mais là, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans là où vous en êtes, eh bien c'est pas possible que je puisse vous le dire. Et c'est notre responsabilité dans la communication, de savoir est-ce que la personne en face de moi peut supporter ce que je veux moi lui dire. Parce qu'on ne communique pas que pour notre propre besoin. J'ai besoin de parler, alors je vais tout dire comme je veux le dire, de la façon dont j'ai envie de le dire. Non, je vais prendre en compte la personne en face de moi, là où elle en est, son état spirituel, émotionnel, son âge, son statut, bref, différents critères à prendre en compte pour pouvoir adapter ma communication. Et le premier critère que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est le critère de la nécessité. La nécessité. Est-ce utile ? Est-ce que ce que je veux dire est utile? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que lorsque je vais parler, est-ce que la personne en face de moi a besoin de savoir cette information? Alors ça va dans les deux cas, dans le sens où, eh bien parfois, on est amené à devoir communiquer des choses qui nous sont très personnelles, des informations qui sont même confidentielles, des choses qu'on ne partage pas avec les autres personnes, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une nécessité. Si vous allez chez le médecin, eh bien vous allez devoir lui communiquer des informations qui vous sont très personnelles, même si le médecin n'est pas votre ami. Si vous allez chez le banquier, c'est la même chose, vous allez devoir lui communiquer des informations qui sont personnelles, que vous ne partagez pas avec, même peut-être avec vos amis, mais parce que c'est votre banquier et parce qu'il a besoin d'avoir ces informations, il y a cette nécessité, et bien vous allez devoir lui donner ces informations. Donc ça, c'est le premier critère de la nécessité. Et dans d'autres cas, et bien aussi, il n'y a pas de nécessité. Il y a des fois, on a envie de communiquer des informations parce qu'on peut avoir la parole facile, on peut se dire, oh bah oui, je peux raconter un petit peu tout, il y a un petit peu n'importe quoi, mais c'est important de se poser la question, est-ce utile? Est-ce que c'est utile dans cette situation? Est-ce que c'est utile pour cette personne d'avoir cette information? Et lorsque ce n'est pas utile, eh bien on peut faire le choix sage que de ne pas communiquer cette information. J'en reviens encore aux informations qui sont quand même utiles à communiquer. Alors, ils n'aiment pas que je raconte cette histoire-là, mais je vais quand même vous la raconter. Eh bien, vous voyez, Jérémy voyage. Et puis, il y a eu une période où il voyageait beaucoup. Et il est arrivé que, en allant sur les réseaux, en allant sur Internet, eh bien, je découvre une affiche avec sa tête et avec son nom, avec des dates. Donc, il y avait un voyage et je n'étais pas au courant. Mais voyez-vous, dans notre situation à nous, à Jérémy et moi, il y avait une nécessité que de transmettre l'information. C'était un critère important parce que pour moi, en tant qu'épouse, c'était important de savoir que mon mari voyage, seul parce qu'on est mariés, mais aussi pour toute une question de logistique. J'ai besoin de savoir s'il est là ou s'il n'est pas là. Et le fait de l'apprendre de cette façon-là, ne vous inquiétez pas, ça va pas poser de problème, tout est résolu, c'est bon, le pardon a été relâché. Mais le fait de savoir, d'apprendre ce genre d'information par ce biais-là, bah, peut détériorer aussi certaines relations. Et puis là, j'ai pu le savoir, mais il y a d'autres informations quelquefois qui nous sont utiles, qui sont utiles à d'autres personnes, mais qu'on ne prend pas le temps de communiquer. Et ça peut venir altérer, non seulement dans un premier temps, c'est sûr, ça altère la communication, mais une communication qui est altérée à plusieurs reprises et de façon récurrente devient une relation qui est aussi altérée, une relation qui peut s'affaiblir et ça peut créer aussi des blessures. Donc, la première question, c'est est-ce utile? Quelquefois, oui, c'est utile, c'est nécessaire que de parler même à des gens. On n'est pas proche, mais il y a une nécessité que de devoir parler. Et puis d'autres fois, eh bien, il y a des personnes à qui on ferait mieux juste de se taire parce qu'il n'y a aucune nécessité de leur livrer certains détails de notre vie, certaines informations de notre vie, même si on nous pose des questions. Parce que vous voyez qu'à la fois la curiosité fait que certaines personnes vont poser des questions. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La personne est libre de vous poser une question, mais vous êtes libre aussi de choisir d'y répondre ou de ne pas y répondre. Quand j'étais petite, j'habitais dans une petite commune en France et puis je revenais de la boulangerie et il y avait une dame qui m'attendait devant chez elle, devant sa porte de maison et elle me dit « Ah bonjour Annabelle, bonjour !» et parce que je suis polie, je réponds « Bonjour !» et là elle commence à discuter et puis bah moi je suis une petite fille, je reviens, je suis allée chercher le pain et puis elle est gentille et là elle me propose des bonbons, la dame. Alors déjà c'est la première chose, on n'accepte pas les bonbons même de voisins ou de voisines, et mais là elle m'a appâtée avec des bonbons et là elle a commencé à me poser des questions sur ma famille, me poser des questions sur mes parents et puis bah moi elle m'avait offert des bonbons donc je mangeais les bonbons puis je réponds ah oui mon père, ma mère, blablabla, je racontais je sais plus trop ce que j'ai raconté, c'est pas si grave que ça, mais il y avait aucune utilité pour elle de le savoir. Et quand je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma mère, j'ai dit ah bah j'ai vu la dame qui habite là-bas, m'a donné des bonbons. Et là déjà ma mère me regarde, elle t'a donné des bonbons? Et je dis oui, puis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh bah m'a posé des questions, et puis elle m'a demandé si, elle m'a demandé ça, etc. Et là en fait j'ai vu le visage de ma mère changer et j'ai compris. Là j'ai compris, je me suis faite avoir, je me suis fait piéger par des bonbons. Et bon c'est sûr que après ma mère me l'a vraiment clairement redit, mais moi-même étant petite fille j'ai réalisé qu'elle m'avait piégée, qu'elle m'attendait là et qu'elle voulait juste avoir des informations pour du commérage et qu'elle m'avait soudoyée avec des bonbons et que le sucre eh bien m'a fait baisser toutes mes gardes et que j'ai commencé à raconter je sais plus trop quoi et moi je pensais pas mal faire mais j'ai donné des informations alors qu'il n'y avait aucune nécessité et j'ai juste répondu à la curiosité d'une dame qui voulait juste nourrir sa petite provision de commérage pour ses prochaines discussions avec les autres voisines. Donc ce n'est pas parce qu'on pose une question que vous avez l'obligation de répondre. Posez-vous la question, y a-t-il une nécessité ? Et donc, j'arrive à mon deuxième critère. Le deuxième critère pour une bonne communication, ça va être la maturité. La maturité, évaluer la maturité de la personne à qui je m'adresse. Parce que selon la personne à qui je m'adresse, eh bien, je vais devoir, moi, adapter la façon dont je vais parler. C'est ma responsabilité à moi, qui ai une information à délivrer, de choisir la manière dont je vais délivrer mon information. Ce n'est pas la personne en face de moi de systématiquement s'adapter à ma communication. Je dois être capable d'évaluer en face de moi, évaluer, pas dans le sens de juger avec mépris ou avec un esprit hautain, mais avec bon sens, sagesse et intelligence. Ok, à qui ai-je affaire pour savoir comment est-ce que je vais délivrer mon information? Et puis on va lire ensemble ce passage dans Hébreux 5 au verset 11. Alors on peut lire ensemble. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors j'ai lu ce passage, non pas pour adresser des reproches, pour dire « vous n'en êtes encore au lait, ce n'est pas normal », mais je prends vraiment ce passage, et c'est important que vous puissiez vous le rappeler pour que votre cœur reste ouvert, pour vous-même mais aussi pour les autres, c'est pour voir qu'en fait il y a différentes façons, comme l'auteur aux Hébreux nous le dit, il y a différentes nourritures. Il y a une nourriture qui est solide, qui est réservée aux gens expérimentés, mais il y a aussi un lait, une nourriture liquide qui est réservée aux enfants. Alors on voit qu'il y a différentes formes de communication et que bon là l'auteur est frustré parce qu'il se dit j'aurais aimé donner de la nourriture solide mais vous n'êtes pas capable de prendre cette nourriture solide. Alors eh bien je dois adapter ma communication. Et c'est exactement ce qu'on doit faire sans être déçu forcément des gens parce qu'il y a une croissance aussi qui est naturelle et c'est normal selon l'état de la personne, selon l'âge de la personne, qu'il y ait un moment besoin de lait, qu'il y ait un moment besoin d'avoir aussi de la nourriture solide. Mais on n'est pas là pour évaluer l'état ou l'évolution de chacun, c'est juste pour mettre l'emphase sur le fait qu'il y a différentes formes de communication, différentes formes de nourriture. Alors vous voyez, je vais prendre un exemple. Mettons que je veux communiquer l'information « Mon père est malade ». Eh bien, je vais pouvoir le communiquer de différentes façons. Et on va voir ensemble dans la maturité de la personne en face de moi, selon la maturité de la personne en face de moi, comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter ? Alors, quand on en revient au passage aux Hébreux, on voit que dans l'Épître aux Hébreux, qu'il y a différentes formes. Et on parle de nourriture solide. Alors, je vais prendre l'exemple avec une pomme. On a une pomme qui est entière. Cette pomme entière, eh bien, ça représente une communication qui est brute, une communication qui n'est pas filtrée, une communication que je peux donner telle qu'elle. Voilà, mon père est malade et... Écoute, il faut quand même, peut-être si je parle à des gens qui sont proches de lui, bah ça peut provoquer un choc, ça peut provoquer des questions, ça peut provoquer de la tristesse, d'où l'importance de pouvoir évaluer l'état de la personne à qui je parle. Donc si, lorsque je donne une pomme à quelqu'un, lorsque j'utilise une pomme entière, ça veut dire que j'utilise une communication brut, pas brutal, mais brut, ça veut dire tel quel, je ne prends pas de gants, je vais direct au but, je livre mon information, et voilà, ça veut dire que la personne en face est capable de prendre cette pomme, et est capable de la croquer, est capable de la manger par elle-même pour recevoir toute l'information. Mais ça veut dire qu'elle doit en avoir la capacité, qu'elle doit en avoir la maturité et qu'elle doit comprendre que c'est la façon dont elle doit recevoir la communication. C'est à elle de la manger, c'est à elle de la mâcher. Donc cette communication-là ne me demande à moi qui la donne pas vraiment d'effort, c'est la communication brute, une pomme au complet. Maintenant, il va y avoir une autre forme de communication, si on reprend toujours mon exemple de pomme, c'est que cette pomme, eh bien, je peux aussi choisir de la couper en quartiers. Alors ici, on a des petits quartiers de pommes. Et je peux prendre le temps de prendre mon information et puis de la couper pour qu'elle soit plus accessible, pour qu'elle soit plus digeste, pour qu'elle soit plus facile à recevoir, parce que cette pomme-là, elle est trop brute, elle est trop grosse, parce que la personne en face de moi ne pourra pas le supporter, ce serait quand même une arme, parce que si je donne la pomme, je peux blesser quelqu'un en jetant une pomme sur la personne, et le but de la communication, ce n'est pas de blesser, ce n'est pas d'accabler, c'est de pouvoir transmettre un message qui va être reçu et qui va être compris. Alors, eh bien, quelquefois, j'ai besoin de devoir préparer, de prendre ma communication comme cette pomme et de la couper en quartier pour qu'elle soit accessible. Et il y a une dernière étape, c'est le liquide, le lait dont on parle dans l'Épître aux Hébreux. Il y a pomme, ça peut être aussi une compote. Le message reste le même. C'est juste que là, j'ai pris le temps non seulement de couper ma pomme, mais en plus de faire cuire ma pomme et de la broyer pour que ça devienne une compote, pour que ce soit encore plus digeste, encore plus facile à assimiler, encore plus facile à avaler. Et si vous remarquez, ces deux façons de communiquer, de couper la pomme pour que ça fasse des quartiers ou de broyer la pomme pour que ça fasse de la compote, eh bien c'est à moi que ça demande du travail. Ça veut dire que je fais le choix de travailler ma communication. Je fais le choix d'adapter ma communication parce que j'ai le souci de la personne en face de moi. Parce que je veux que mon information soit reçue, mais je ne veux pas que mon information, que ma communication devienne trop lourde, devienne accablante, devienne indigeste, devienne inaccessible, voire même dangereuse. Parce que je n'ai pas voulu faire mon travail, parce que j'ai eu la flemme de prendre des gants, parce que j'ai eu la flemme de pouvoir réfléchir avant de parler, parce que c'est à eux de s'adapter. Non, c'est à moi de m'adapter, c'est ma responsabilité, tout comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Vous ne pouvez pas le supporter. Alors je fais le choix de m'arrêter là, je fais le choix de communiquer de cette façon-là. Et on en revient à cet exemple que j'ai pu prendre. Mon père est malade. Eh bien, si vous allez vous adresser maintenant à votre famille, peut-être à vos enfants, eh bien, vous allez devoir adapter votre communication. Parce que si vous parlez à votre enfant qui a 5 ans, qui aime énormément son grand-père, qui est très proche de lui, et lui dire « Voilà, ton grand-père, il est malade », vous êtes en train de lui donner une pomme et pour lui, ça vient le frapper de plein fouet. Ça vient mettre des doutes, ça vient mettre peut-être de la peur, ça vient mettre des angoisses parce que nous avons mal communiqué. Mais cet enfant de 5 ans, il a besoin qu'on puisse lui transmettre cette information parce qu'il y a une nécessité, parce qu'il est de la famille, parce qu'on veut être transparent, on veut pouvoir parler de l'état de santé du grand-père. Bon, là, je fais toute une mise en scène, hein, mais pour vous mettre vraiment dans le contexte. Donc, je veux lui transmettre l'information, mais maintenant, comment est-ce que je vais lui transmettre l'information afin que, en lui, eh bien, ça ne produise pas tout un tas de choses négatives, de sentiments, d'émotions négatives. Eh bien, je vais devoir préparer ma communication. Je vais devoir préparer mon père est malade et que ça devienne une compote pour qu'il puisse le recevoir. Alors, je vais peut-être employer des mots différents. Mais tu sais, papy, en ce moment, il n'est pas très en forme. Mais on croit que ça va aller mieux et on va prier pour lui. Papy, il a eu un bobo peut-être à l'estomac. Alors, c'est pour ça qu'il est parti voir le docteur. Et puis, il a fait dodo là-bas, il a fait dodo à l'hôpital. Mais on est en train de le soigner et ça va bien aller. Mais de lui dire... Oh, papy est parti à l'hôpital, il est sous perfusion et il peut pas se nourrir par lui-même, il pourra pas marcher pendant 2 semaines. Ça peut créer des peurs parce que la communication n'était pas adaptée. Et maintenant, bah, la communication où on prend le temps de découper, on prend le temps de faire des quartiers, bien ça va être un entre-deux. Et ça, c'est vraiment à nous de juger, parce que même dans les quartiers de pommes, il peut y avoir toutes sortes de quartiers de pommes. Et c'est là où on a besoin nous-mêmes de grandir et de s'affiner pour être sensible au Saint-Esprit et lui dire et demander au Saint-Esprit, comment veux-tu que je communique? Comment veux-tu que je transmette l'information? Est-ce que je le transmets de façon brute, sans gants, sans filtre? Ou alors est-ce que j'ai besoin de travailler ma communication? Et c'est pas une honte non plus quand on nous donne une information qui est un peu plus travaillée, de le recevoir de cette façon-là, de dire non, c'est bon, moi, tu peux y aller sans gants, sans filtre, parce que quelquefois, ça peut nous blesser. Donc si la personne en face de nous a pris le temps de préparer sa communication, eh bien, appréciez-le parce que ça peut vous épargner certaines douleurs, certaines frustrations. Et moi, quelquefois, Jérémy doit me dire des choses et il peut pas venir en me disant certaines choses juste en me tendant la pomme parce que ce serait trop violent pour moi. Donc, il a besoin de travailler sa communication, il a besoin de couper sa pomme, quelquefois, il a besoin d'en faire une compote aussi pour que ce soit recevable et que je ne me braque pas ou que ce soit pas trop lourd pour moi d'un seul coup. Et je lui en suis reconnaissante que de faire cet effort-là. Et dans le couple, eh bien, on a souvent besoin de le faire. Dans le milieu du travail aussi, on a souvent besoin de le faire. Dans la famille, on a aussi souvent besoin de le faire, d'être vigilant à la façon dont on va communiquer. Alors, je vous rappelle, la pomme, communication brute, sans filtre. Le quartier, je fais l'effort de couper et de rationner aussi peut-être l'information. Et dernièrement, la compote, qui est le liquide et qui va être la forme la plus facile à recevoir selon la maturité de la personne en face de moi. Et j'aimerais ajouter, avant d'aller à notre dernier critère, ceci dit, quand vous donnez de la compote à quelqu'un, ne lui dites pas « je te donne de la compote » parce que ça ne sera pas avantageux dans la communication. On le fait avec un esprit d'humilité. Si je prépare ma communication sous forme de compote, eh bien je le fais pour le bien de l'autre, mais pour mon bien aussi finalement. Donc c'est pas la peine de venir avec une espèce d'esprit de supériorité. Eh bien moi, personne mature que je suis, je t'ai préparé de la compote pour que tu puisses mieux comprendre, mieux assimiler, parce que quelquefois on a besoin de compote dans certains domaines, mais dans d'autres domaines on peut très bien recevoir une pomme aussi, on peut recevoir une information directe. Il y a des domaines où on va être plus sensible que d'autres, alors eh bien on ne veut pas non plus humilier les gens en leur faisant remarquer qu'on leur a donné de la compote. Je voulais le souligner pour pas que ça devienne non plus une occasion d'attaque les uns envers les autres, alors qu'on s'efforce de mieux communiquer les uns envers les autres. Alors je vous rappelle, le premier critère, c'est la nécessité. Est-ce utile de communiquer? Est-ce que ça apporte une vraie plus-value? Est-ce que c'est absolument nécessaire de communiquer? Et si oui, eh bien, peu importe le degré de relation que je peux avoir avec la personne, je peux être amenée à devoir donner certaines informations seulement par nécessité. Sinon, ça risque de créer des couacs, des freins ou des problèmes. Donc là, eh bien, je dois m'efforcer de communiquer. Mais c'est pas parce qu'on me pose une question que je suis obligée de répondre s'il y a aucune nécessité. Deuxième critère, acquiert la maturité et on s'adapte à la personne en face de nous. On s'adapte selon la maturité de la personne en face de nous, que ce soit une maturité émotionnelle, une maturité spirituelle, avec nos trois formes. On a vu de nourriture, que ce soit la pomme au complet, les quartiers ou la compote. Et on arrive à notre dernier critère, le critère de l'intimité. Alors le critère de l'intimité, c'est un petit peu le critère qui va tout faire basculer d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on va pouvoir maturer et s'épanouir d'une façon abondante dans nos relations. Ces relations qui sont chères à nos cœurs et ces relations dans lesquelles on est appelé à pouvoir, qu'on est appelé à nourrir à cause de l'intimité qu'il y a. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un court passage dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13 au verset 36. Matthieu 13 au verset 36. Alors si vous lisez tout le chapitre, eh bien vous verrez que Jésus dans ce chapitre a parlé en parabole à la foule avec plusieurs paraboles. Il en a expliqué certaines de façon partielle, mais il a parlé à la foule. Tout le monde était là et Jésus parlait, les disciples étaient là, les disciples écoutaient. Et puis on arrive au verset 36 dans Matthieu 13. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Et Jésus leur répondit. Jésus a répondu à leur demande. Alors pour remettre encore dans le contexte, Jésus était avec la foule et là, il rentre chez lui avec ses disciples. Il rentre chez lui avec ses intimes. La foule s'en va. Il y a eu tout un discours, il y a eu tout un tas de paroles qui ont été dites. Mais là, les disciples s'approchent dans l'intimité de Jésus parce que ils sont intimes de Jésus. Ils demandent, mais explique-nous, on veut en savoir plus. Tu as dit ça à la foule, mais on sait qu'il y a plus. Est-ce que tu peux nous le dire ? Et ce que je trouve très beau dans ce passage, c'est cette courte phrase, Jésus leur répondit. Jésus a répondu à leur désir d'intimité. Jésus a su répondre aussi selon le degré d'intimité qu'il avait avec ses disciples. Parce que les disciples avaient une relation avec Jésus qui était beaucoup plus intime que les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont non seulement osé poser la question, mais comme on l'a vu, c'est pas parce qu'on pose une question qu'il y a forcément une réponse, mais on voit que Jésus a dit « Ok, je vais vous répondre. » On s'est retirés ensemble dans la maison, et maintenant, on va avoir une discussion plus intime. Je vais vous dire plus de choses que j'ai dit aux autres. Est-ce que c'est parce que vous en avez besoin ? Oui, vous en avez besoin parce que c'est sûr, ça va vous faire du bien. Mais c'est le vrai besoin, c'était pas le besoin informationnel, c'était informatif, c'était pas non plus le besoin d'enseignement. Je crois que le premier besoin auquel Jésus est en train de répondre, c'était le besoin de l'intimité. L'intimité a besoin d'être nourrie dans une relation. Et c'est ce degré d'intimité qui va déterminer le degré de détails, de profondeur, de choses précieuses qu'on va pouvoir livrer dans la communication. J'en reviens à mon exemple. Mon père est malade. Mon père est malade, je peux le dire de différentes façons. On l'a vu selon l'état de maturité de la personne en face de moi. Mais maintenant, selon l'intimité, la relation d'intimité que j'ai avec la personne, sans oublier bien sûr la nécessité, la maturité, mais est-ce que je suis dans une relation intime avec cette personne ? Alors si je suis vraiment dans une relation intime avec cette personne, il y a un degré d'intimité qui est plus élevé, eh bien je vais pouvoir peut-être m'ouvrir sur mes états d'âme suite à cette information. Mon père est malade et ça m'inquiète. Mon père est malade et c'est la première fois que je vois mon père dans cet état-là. C'est la première fois que je vois mon père dans un état de faiblesse. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Ça, on est dans un degré d'intimité. Parce que de le raconter à quelqu'un dont vous n'êtes pas proche, vous êtes en train de lui livrer les secrets de votre cœur, vous êtes en train de lui livrer vos états d'âme. Et s'il n'y a pas d'intimité, eh ben, il n'y a pas de place non plus pour donner ce genre de détails. Parce que ce ne sont pas juste des détails qui ajoutent des mots, qui ajoutent de la parole. Non, ce sont des choses précieuses que nous confions, des choses qui viennent de notre notre cœur et que nous sommes en train de mettre à nu. Et à partir du moment où il y a cette mise à nu, il y a cette vulnérabilité, ça veut dire qu'il y a intimité. Ça veut dire qu'il y a un échange, il y a une confiance. Et c'est important de nourrir l'intimité. Parce que sinon, les disciples se seraient sentis comme la foule, en fait. Les disciples auraient dit, bah, franchement, Jésus, nous, on est avec toi, on est dans la même maison ensemble, on entend tout ce que tu dis à la foule, mais bah, nous, tu dis rien de plus. Nous, on a le droit à rien de plus. Et Jésus nous a montré ce modèle de l'intimité en disant, non, vous, mes intimes, je peux vous en dire plus. Tout comme Dieu révèle ses secrets à ses amis. Il y a des choses qu'il ne révélera pas à certaines personnes, non pas parce qu'il ne les aime pas, non pas parce que ce ne sont pas des personnes qu'il déteste, mais seulement parce que ce ne sont pas des intimes. Il y a des choses que Dieu nous révèle seulement lorsque nous sommes dans l'intimité avec lui. C'est l'intimité qui nous donne, qui nous ouvre la porte sur tout un tas de choses, de révélations, de mystères cachés. Et c'est cette intimité qui nous donne cet accès-là. Et c'est pareil dans nos relations, l'intimité va donner accès à certaines choses. Alors ça, c'est un petit exemple mignon, mais qui est quand même, qui peut un petit peu montrer dans une relation d'amitié que une relation d'amitié où il y a intimité, bah, a besoin aussi d'être nourrie. Il y a quelques années, eh bien, on a décidé avec Jérémy de prendre un chien, et c'était surprenant parce que on avait toujours dit qu'on n'aurait pas de chien, etc. Bref, vous savez le genre de phrase qu'on peut dire. Puis après, finalement, tu fais exactement tout l'inverse de ce que tu avais dit. Mais bref, on avait dit que nous, non, c'est pas notre truc d'avoir un chien. Puis finalement, on a changé d'avis. Et puis, bon, je peux en trouver ça rigolo, j'imagine, de ne pas le dire, de faire une espèce de surprise. Une surprise dont tout le monde s'en fiche au final. Mais voilà, on était dans notre petit délire. Et on est arrivé chez les Lebeaux. Donc, Mickaël et Evelyne, qui sont nos amis, des amis intimes, des amis proches. Et avec le chien, surprise! Et là, en fait, Mickaël a dit mais vous n'êtes pas des vrais amis, pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Et voilà, c'était juste un petit exemple pour illustrer. Mais ça a amené sur de plus grandes conversations où Mickaël a pu exprimer que bah, pour lui, l'intimité amenait aussi cette notion de choses qu'on partage, cette notion de confidentialité, de choses confidentielles que tu partages à tes amis proches, que tu partages à tes proches, parce que ça vient comme nourrir cette intimité, ça vient solidifier cette intimité, et que si quelquefois on ne le fait pas, eh bien on peut aussi venir affaiblir la relation. Affaiblir la relation parce que finalement, tu te dis, bah, cette personne, est-ce qu'elle me fait vraiment confiance? Est-ce qu'on échange vraiment des choses? Surtout quand il y a un échange, mais qui ne va pas à double sens. Et il y a des personnes, ce sont des livres ouverts. Elles disent tout à tout le monde. Elles livrent tous leurs états d'âme, les plus secrets, les plus personnels, les plus intimes à tout le monde. Elles peuvent même le faire sur Internet. Et du coup, elles deviennent vulnérables et ça peut devenir dangereux parce que les gens peuvent prendre ça et mal l'utiliser. Des gens mal intentionnés qui prennent ces informations pour après venir t'attaquer. Et parce que tu n'as pas respecté ce critère de l'intimité, tu as donner des choses trop précieuses à des gens qui n'étaient pas assez intimes. Maintenant, tout le monde n'est pas malveillant. Il y a ce passage qui nous dit de ne pas jeter nos perles aux pourceaux et il y a cette vérité-là. Mais quelquefois, c'est pas, les gens ne sont pas forcément des pourceaux. C'est juste que ce ne sont juste pas des intimes. Ce ne sont pas des amis proches. Ils ne font pas partie de notre cercle intime, que ce soit amical ou familial. Et du coup, bah, l'intimité ne permet pas, le manque d'intimité ne permet pas cette hauteur de d'informations intimes parce que ça va créer un déséquilibre et on va se retrouver dans une relation où on pourrait être mal à l'aise de ce qu'on a dit ou même la personne en face peut être mal à l'aise de ce qu'on lui a dit ou penser qu'elle est beaucoup plus proche qu'elle ne l'est finalement. Donc l'intimité va mettre un frein à ce qu'on va dire, mais l'intimité va aussi ouvrir une porte pour qu'on puisse apprendre à s'ouvrir. Et en ce qui me concerne, eh bien, c'est plus facile pour moi de ne pas dire que de dire. Je peux dire un tas de choses, je peux parler beaucoup, longtemps, il n'y a pas de souci, la preuve, regardez aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup et longtemps que forcément on livre des choses intimes. Mais et on doit faire cet effort dans nos relations, dans certaines relations. Alors on n'en a pas 10 000 dans la vie, mais selon le degré d'intimité, on doit faire cet effort de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir devenir vulnérable. vulnérables afin de pouvoir nourrir cette intimité. Sinon, on risque de mettre des distances avec certaines personnes avec qui pourtant bien, nous sommes appelés à marcher, des gens qui sont appelés à nous soutenir aussi. Et si on ne leur partage pas certaines choses, bien, on peut même se retrouver dans des situations où on a l'impression de vivre de la solitude, de vivre de l'incompréhension, de se sentir abandonné. Et en fait, le courage, la force dont on a besoin, ces encouragements dont on a besoin, ces conseils dont on a besoin, eh bien, seraient disponibles si on était prêt à s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, eh bien, je dois reconnaître aussi la porte de l'intimité qui ne me force pas, mais en tout cas, qui me met face à une responsabilité. Je suis dans cette relation, on est dans un tel degré d'intimité que quelque part, si je ne le dis pas, c'est comme si j'étais en train de priver la personne de vivre quelque chose, cette chose-là avec moi. C'est pareil dans le mariage, on ne fait plus qu'un, et c'est pour ça que c'est important que dans le mariage on soit capable de s'ouvrir l'un à l'autre, d'être vulnérable, d'ouvrir nos cœurs, de pouvoir dire les choses les plus profondes de notre cœur, quelquefois les choses qu'on n'a jamais dites à personne, des choses qui peuvent même nous embarrasser, mais être capable de pouvoir se mettre à nu devant l'autre dans le cadre du mariage, ça va venir renforcer l'alliance, ça va venir renforcer l'intimité. Et si je décide de fermer cette porte, eh bien, je ne vais pas nourrir l'intimité. Du coup, il y a des relations que je ne vais jamais fortifier. Et je vais passer, comme j'ai dit aussi, à côté quelquefois d'une bénédiction, à côté du conseil, de l'encouragement dont j'avais besoin. Alors, 3 critères, je vous les rappelle, pour mieux communiquer, pour pouvoir mieux évaluer la forme de ma communication, mais aussi la quantité de ma communication. Alors, comment donner beaucoup ou comment donner moins? Pourquoi le faire? Quand le faire? Est-ce que je donne tout? Est-ce que je sectionne? Est-ce que je donne goutte à goutte? Eh bien, ces 3 critères, je crois, vont pouvoir vous aider. Le critère de la nécessité, est-ce utile? Le critère de la maturité va déterminer la forme, la manière dont je vais communiquer, et l'intimité va déterminer la quantité de ce que je vais dire ou de ce que je ne vais pas dire aussi. Alors j'espère que ces 3 critères, eh bien, vous auront aidé et que vous allez pouvoir les mettre en pratique dans vos communications. Et lorsque on travaille notre communication, meilleure est notre communication, meilleures aussi seront nos relations. Alors mettez-les en pratique et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire les fruits que ça a porté dans votre vie. Alors je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce dernier épisode d'À table avec Annabelle en cette fin de semaine. Et puis on se retrouve lundi avec toute l'équipe. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À table avec Annabelle sur emcitv.com.